Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs sur France Culture, entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, l'art peut-il se passer du marché? Au lendemain de l'ouverture au public à Paris de la Foire internationale de l'art contemporain, la FIAC, et alors que les œuvres de certains artistes pourtant rétifs, disent-ils, au marché comme Banksy battent des records en salle des ventes, le temps du débat a souhaité s'interroger sur l'équilibre entre marché de l'art et production artistique externe à ce même marché. Nombre d'artistes en effet n'ont pas accès, par choix ou par force, aux galeries ou aux salles des ventes. L'achat par des collections publiques ou par des collectionneurs privés de leurs œuvres compense parfois leur moindre visibilité. Pour en parler, le temps du débat a réuni une économiste, Nathalie Moureau, une sociologue, Zoé Allaire, une galeriste, Nathalie Obadia, et un collectionneur, Pierre Pradier. Mais pour nous mettre dans une certaine ambiance, remontons dans le temps. Nous sommes il y a 2 semaines à Londres, chez Sotheby's, le 3 octobre dernier, et on y vendait une œuvre de Banksy, Devolved Parliament.
Ladies and gentlemen, we move on to the Banksy, the Devolved Parliament, lot number 28. Signed, dated, 09 on the reverse and variously inscribed on the stretcher. Property from an important private collection. Some interest here, and I'm going to start the bidding at £1,100,000. At £1,100,000, £1,200,000, £1,300,000, £1,400,000, £1,500,000, £1,600,000, £1,700,000, £1,800,000, £1,900,000. £2 million, sir. Taking £2 million from you.
Évidemment, la vente a continué pendant une douzaine de minutes. Bonsoir, Nathalie Obadia.
Bonsoir.
Il faut s'apercevoir, vous êtes galeriste, je le rappelle, mais vous avez écrit aussi une géopolitique de l'art contemporain au Cavalier Bleu au printemps dernier. Il faut s'apercevoir que ce type de vente qui impressionne beaucoup, qui sont relayées évidemment par tous les médias du monde entier d'ailleurs, eh bien, ce type de vente est assez rare et que pour des artistes contemporains, ça n'est pas le quotidien de leur vie, ni le quotidien des galeristes, ni le quotidien des salles des ventes.
Et des collectionneurs. Voilà. Non, c'est forcément un lot et le tableau lui-même était assez, c'était complètement spectaculaire puisqu'il s'agissait d'une scène qui reprenait la Chambre des communes de Londres avec des singes.
En plein Brexit en plus.
En plein Brexit. Le tableau d'ailleurs tout à fait spectaculaire et très beau hein, au demeurant et la technique était parfaite. Mais c'est une exception. Voilà. Donc le reste du marché, une grande partie du marché et diront fait de choses plus normales, si tant est qu'on peut appeler ça normal. C'est-à-dire, ce sont des collectionneurs qui fréquentent les foires, les galeries, qui achètent des œuvres à des prix raisonnables.
Qui les revendent à des prix moins raisonnables, mais
ou qui les gardent. Ça aussi, il y a, je dirais, une majorité de collectionneurs qui gardent leurs tableaux. La revente est d'ailleurs aussi salutaire parfois, parce que ça permet aussi la médiatisation d'artistes, de prix de certains artistes. Donc c'est, je pense qu'il ne faut jamais rien caricaturer et que l'ensemble du marché est plutôt sain.
Pierre Perdier, bonsoir. Vous êtes vous-même collectionneur, vous êtes avocat, mais vous êtes collectionneur. Aujourd'hui, c'est pour cela que vous êtes ici. Vous avez commencé votre collection à l'âge de 40 ans, c'est cela ?
Bonsoir Emmanuel Laurentin. Oui, j'ai commencé à l'âge de 40 ans. En fait, je fréquentais un centre d'art contemporain au Sable d'Olonne qui accueillait de jeunes artistes français ou étrangers. Et j'avais la chance d'en connaître le curateur. Et j'ai donc vécu plusieurs jours, à plusieurs reprises, auprès d'œuvres. Et cette situation m'a donné envie de connaître ces artistes et d'approfondir ma connaissance de leur travail.
Et vous avez commencé à collectionner des artistes vivants, des artistes déjà décédés, des artistes qui, d'une certaine façon, n'avaient pas encore de cote ou commençaient à en avoir une. Comment ça s'est passé, Pierre Pradier ?
Alors, le premier artiste que j'ai acheté s'appelle Marc Desgrandchamps, à une époque où il n'était pas encore à la Galerie Zurcher. Il venait d'être exposé à côté des Sables d'Olonne. Et je suis parti à Lyon visiter son atelier, accompagné de mon épouse. Et nous sommes revenus avec un immense tableau qui est toujours accroché à la maison.
Ah, il faut dire que vous étiez, et c'était peut-être à contre-courant à ce moment-là, collectionneur, vous avez commencé une collection de peintures au moment où, disons, la peinture était un peu décriée à l'intérieur du milieu de l'art contemporain. Et vous avez continué d'ailleurs sur cette lancée, même si vous avez diversifié votre propre collection, Pierre Pradier.
Alors, dans mon état d'esprit, il n'y a pas de médium à privilégier. Il se trouve que j'ai tiré la ficelle de la peinture et j'ai continué à l'observer. tout en me nourrissant de pratiques qui appartiennent à l'installation, à la photographie et surtout à la vidéo. Et du reste, j'observe que certains artistes que Nathalie connaît, par exemple comme Pierre Moliard, on crée des œuvres à partir d'une maquette qui est tirée d'un film, en fait, qu'ils ont constitué. Et donc, ce rapport entre les médiums est extrêmement important pour moi. Alors, évidemment, en tant que collectionneur, eh bien, il est plus facile d'acquérir un tableau qu'une installation, qu'une image animée.
Alors, Nathalie Moureau, vous êtes vous-même professeure d'économie, vice-présidente déléguée à la culture à l'Université Paul-Valéry de Montpellier. Comment vient-on, en tant que professeur d'économie, sur ce marché, justement, pour l'analyser, pour le comprendre et pour comprendre les particularités de ce marché par rapport à tout un tas d'autres marchés, je ne sais, de l'alimentation ou d'autres types de vie économique, pourrait-on dire, Nathalie Moreau?
Alors, c'est un marché qui est particulièrement intéressant parce que il offre des particularités qui permettent d'étudier. C'est une sorte de miroir grossissant de ce qui peut se passer sur de nombreux autres marchés, notamment en termes d'incertitude de la qualité. L'incertitude sur de la qualité quand on est collectionneur et qu'on acquiert une œuvre d'art est bien plus élevée que celle quand on acquiert un bien de consommation courante ou quand on
va faire
pour un service. Voilà. Donc, l'étude du marché de l'art a ses particularités-là que quand on les creuse, ça permet de mieux connaître les autres marchés. Donc, en tant qu'économiste, plus largement, tous les marchés culturels sont intéressants à étudier pour les économistes parce que ce sont des biens d'expérience ou de confiance. Un bien d'expérience, on a besoin de consommer ce bien pour en connaître la qualité. Un livre, tant que vous n'avez pas lu le livre, vous n'en connaissez pas la qualité, même si vous avez des indices. Une œuvre d'art, aussi, c'est très complexe de connaître la qualité. Certes, vous pouvez la voir, mais pour savoir ce que va devenir l'artiste dans 10 ans, 50 ans, ou voire plus, il y a toute cette problématique-là. Et généralement, on fait confiance à des jugements. On a son propre goût, ses propres connaissances d'histoire de l'art et autres. Mais pour en connaître la qualité, on fait aussi confiance à des jugements d'experts.
À des tiers. Qui sont les galeristes, qui sont
notamment,
les experts.
Tout à fait. Très souvent, le galeriste est vu comme quelqu'un qui est uniquement un marchand qui veut vendre l'artiste qui l'exploite. C'est la vision que les personnes en ont. Je vois que Nathalie me regarde.
Raymonde Moulin,
qui est une sociologue, qui est la première à s'intéresser.
La grande sociologue
qui a fait, décédée.
Voilà,
qui est décédée cet été, qui a commencé à travailler sur le marché de l'art dans les années 60, disait que la paire qui était centrale pour la reconnaissance des artistes au début du siècle dernier, c'était la paire critique-marchand, ou galeriste. Et dans les années 60, il y a eu un basculement, c'est devenu la paire conservateur marchand ou galeriste. Donc on voit qu'il y a toujours le marchand qui est essentiel. Et aujourd'hui, le grand collectionneur est devenu essentiel de par les moyens qu'il a, les fondations privées, etc., pour la constitution de la qualité. Et le rôle du galeriste, c'est de contribuer à diminuer cette incertitude en travaillant avec les institutions, en travaillant avec des critiques pour faire reconnaître justement ce travail. Et je cite très souvent Nathalie Obadia, que j'avais rencontrée il y a très longtemps, en 2000, quand j'avais fait un travail sur les galeries d'art contemporain. Et quand je lui demandais comment elle faisait pour faire les prix et la cote des artistes, elle me parlait de Carole Benzaken, je m'en souviens bien.
Qui est une artiste aussi.
Voilà, qui est une artiste de sa galerie. Elle me disait, c'est une artiste qui fonctionne bien, donc les prix augmentent peu à peu. Mais là, j'arrive à un certain niveau où je ne pourrais pas augmenter plus les prix parce que je n'ai pas ces signaux de qualité et qui donnent la confiance aux collectionneurs. Et tu m'avais dit, la prochaine fois, il faut que je place une œuvre à Beaubourg. Alors, je pense que ça a été fait.
C'était fait.
Mais c'est le travail du galeriste qui est un travail qui n'est pas forcément visible et qui est essentiel pour travailler à la reconnaissance des artistes.
C'est tout à fait. Je reviens mon métier, je dis, c'est d'influencer les gens influents. Voilà. Donc ces gens influents, c'est ce que Raymonde Moulin ou après Nathalie Hennick ont appelé ces commentateurs, ces agents prescripteurs que sont le conservateur du musée, le critique d'art, les collectionneurs les plus influents. Voilà, tout un aéropage de personnes comme ça qui font que l'artiste est de plus en plus reconnu.
Est-ce qu'il y a plus de porosité entre ces quatre catégories que sont le galeriste, l'artiste, le collectionneur et le conservateur de musée, par exemple, qu'il y en avait auparavant? C'est-à-dire, est-ce qu'au bout du compte, il y avait des murailles qui étaient parfois construites autour du musée par exemple, les conservateurs eux-mêmes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de porosité qu'auparavant, Nathalie Obadia?
Alors, ça dépend, je dirais, des pays. Autant aux États-Unis, c'était complètement différent. Autant en France, quand j'ai commencé à travailler dans le secteur de l'art contemporain. En 1988, il y avait vraiment une muraille qui était faite entre effectivement ce qu'on appelait d'ailleurs les commissaires d'exposition, les conservateurs du secteur public et le marché. Voilà, c'était vraiment une muraille. C'est-à-dire que c'était eux qui étaient, on va dire, les garants du bon goût, de ce qu'il fallait être faire, de ce qu'il fallait être.
Mais une muraille aussi qui se voulait, j'imagine, morale aussi, une dimension morale en disant.
C'est-à-dire que
se mêler au marché, c'était voilà, se salir les mains.
Se mêler au marché, donc forcément, ce sont des artistes qui n'étaient pas similables au marché qui ont été mis en avant par des commandes publiques et des achats dans les institutions. Ça, je l'ai connu. Aujourd'hui, alors c'est peut-être une chance, mais c'est aussi très compliqué aujourd'hui. Je pense que ça a d'ailleurs même un grave problème, c'est qu'il y a quand même beaucoup moins d'argent dans les institutions publiques et dans les musées, et que donc ils font appel à des mécènes, à des collectionneurs privés, et que de temps en temps, on pourrait penser qu'il y a une influence de la part de ces acteurs privés pour une programmation, pour certaines acquisitions.
Sur cette question, Zoé Allaire, vous n'êtes pas encore intervenue, vous êtes doctorante en sociologie à l'Université de Rouen, et vous travaillez sur les œuvres qui se situent en marge du marché de l'art. On écoute pour l'instant la suite de la vente de Banksy à Sotheby's, qui monte petit à petit, puisque ça n'est pas 2 millions de livres qui s'est vendu, mais beaucoup plus. Quand vous travaillez sur ces artistes qui se trouvent en marge du marché de l'art, ce sont des gens qui ont choisi d'être en marge, ou ce sont des gens qui n'intéressent pas le marché de l'art d'une certaine façon?
Ben souvent, c'est une combinaison des deux, puisque évidemment, les artistes souhaitent la plupart du temps diffuser leurs travaux, et passer par une galerie d'art, c'est un moyen de diffuser son travail. Passer par les circuits marchands de l'art, c'est atteindre un public plus large. Et évidemment, une partie d'entre eux, une très grande partie d'entre eux, n'arrivent pas à intégrer ces circuits marchands de l'art. Alors, que font-ils, surtout lorsqu'ils vivent en dehors de la région parisienne, puisque l'offre en matière de galeries d'art est nettement plus limitée en dehors de Paris. Et souvent, lorsqu'il y a des galeries d'art, celles-ci ne s'intéressent pas forcément à cette part plus émergente de la création contemporaine. Il s'agit plutôt de galeries qui sont plus tournées vers un art décoratif, un art plus d'ordre de l'artisanat. Donc ces artistes qui souhaitent rester dans cette convention d'originalité propre à l'art contemporain, qui souhaitent continuer une démarche de recherche et d'expérimentation, ben souvent il s'agit pour eux de trouver les moyens pour continuer à créer et aussi pour montrer leurs œuvres. Et dans ce cadre-là, il y a un ensemble de dispositifs publics qui émaillent l'ensemble du territoire français.
Ce sont quoi, des cours? Ce sont des résidences d'artistes? Ce sont des collectifs d'artistes qui s'organisent pour pouvoir vivre ensemble? Quels sont les moyens justement pour pouvoir permettre à des artistes sans marché ou qui sont en dehors du marché de continuer à vivre malgré tout, Zoé Allaire?
Alors d'une part, il y a tous les dispositifs de soutien sous forme de bourses qui sont alloués par les DRAC, les directions des régionales des affaires culturelles. Il y a des aides individuelles à la création et il y a aussi des aides sous forme de financement de matériel ou de financement d'ateliers. Il y a aussi des bourses qui sont allouées par les municipalités ou bien des prêts d'ateliers, des prêts de matériel. Il y a tout un ensemble de dispositifs donc qui viennent donc des institutions publiques. Et à côté de ces institutions publiques, il y a aussi des formes d'auto-organisation par les artistes.
Mais ça, c'est tout de même une économie très fragile, en l'occurrence Nathalie Moureau ou Nathalie Obadien. C'est une économie qui est quand même très difficile. J'imagine que si on est payé, je sais pas, 1000 euros une fois de temps en temps, ça n'est pas facile de continuer à faire son travail d'artiste.
Mais je pense que c'est toute la problématique de l'artiste, c'est d'avoir des revenus suffisants pour pouvoir effectivement travailler sur le long terme. Et même les artistes qui sont insérés auprès de galeries ont recours à ces bourses, à ces résidences, parce que ça leur donne un souffle. Il ne faut pas croire non plus, enfin vous avez tout à fait raison, il y a tous ces dispositifs qui sont là pour aider des artistes qui sont en marge, mais également des jeunes artistes qui sont en galerie ne vendent parfois pas suffisamment pour avoir les moyens de subsister ou de se financer un atelier. Et à ce propos-là, ils postulent aux bourses qui sont proposées par les DRAC. Certains sont soutenus aussi par des collectionneurs qui les aident dans leur quotidien. Donc toute cette économie parallèle aide non seulement les artistes en marge, mais aussi les jeunes artistes qui sont dans le marché.
Pierre Pradier, puis Nathalie Obadien. Pierre Pradier, vous aidez des jeunes artistes en marge, justement, ou vous avez l'impression d'être un mécène en tant que collectionneur?
J'allais prononcer ce mot, justement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on parle de marché, quand on parle d'indice de qualité relié à une somme d'argent, c'est quelque chose qui ne sonne pas très bien dans mon oreille, parce que finalement, en tant qu'amateur, en tant que collectionneur, j'ai pas eu tout le sentiment d'acheter un objet valorisable. Et j'ai plutôt l'impression c'est-à-dire de participer à un échange.
Vous n'êtes pas dans la spéculation, en tout cas, c'est pas comme ça que vous vous voyez.
Certainement pas. Mmh. Certainement pas. Pour moi, un indice de valeur purement financière est totalement insuffisant à rendre compte de la valeur d'une œuvre. De la valeur par rapport à moi-même, et évidemment, mais par rapport à mon entourage, par rapport à ce que je voudrais dire à propos de cette œuvre. Je ne dirai jamais à propos d'une œuvre, elle vaut, cette œuvre en galerie ou en salle des ventes vaut une certaine
somme. On doit vous le demander tout de même. On doit vous le dire, non? Parce que si c'est votre point de vue, j'imagine qu'il y a un point de vue qui est partagé par beaucoup de nos concitoyens, qui est de se dire, ben voilà, l'art sur le marché, ça vaut tant.
Eh bien, curieusement, on me le demande jamais. on me le demande jamais quand je reçois chez moi, que ça soit à Paris ou dans l'Aveyron, dans ma maison, on parle des œuvres et finalement on ne parle pas d'argent. Ou alors de temps en temps, on me dit bon, mais tu l'as payé combien? Mais pas tellement pour se dire qu'est-ce que ça vaut, mais et si je souhaitais l'acquérir, qu'est-ce que ça me coûterait?
Nathalie Obadia.
Donc, que l'œuvre d'art est un prix, que notre rôle, c'est de le défendre. Donc, moi, j'ai aucun complexe par rapport à ça. C'est-à-dire que j'explique, nous sommes là pour expliquer. Quand on me dit pourquoi, je pense à des tableaux de Benoît Maire qui sont sur le stand et qui connaissent.
De la FIAC, pardon.
Pourquoi tel prix? Bon, ben, nous sommes là pour l'expliquer. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il a augmenté depuis 3-4 ans? Ben, justement, comme vous le disiez tout à l'heure, Nathalie, parce que, voilà, il a comme un CV. C'est-à-dire que depuis 3-4 ans, il a fait une exposition personnelle au musée de Bordeaux. Il a été acquis par tel ou tel musée ou tel collectionneur influent, sans même le citer. Mais enfin, les choses peuvent se comprendre. Tel ou tel critique d'art s'intéresse à lui. Il fait partie d'expositions de groupes importantes. Donc, si vous voulez, on est là pour expliquer l'augmentation d'un prix et l'œuvre d'art représente quand même un certain montant aujourd'hui. Et je peux comprendre, moi, qu'un collectionneur me dise, mais vous êtes sûr que si je l'achète à ce prix-là, je vais faire, pas toujours un bon placement, mais je ne perds pas mon argent. Moi, ça ne me dérange pas du tout. C'est normal de pas jeter l'argent par la fenêtre. On a envie de savoir pourquoi payer un certain prix.
Est-ce que vous avez assisté, il y a eu des cracks dans le domaine de l'art, est-ce que vous avez assisté à des chutes vertigineuses, Nathalie Obadia, d'artistes, chez vous ou dans d'autres galeries, dont les œuvres étaient très cotées et qui, très rapidement, ont dégringolé dans la cote?
Alors, il y a eu des cracks économiques ou boursiers, mais qui sont finalement vite oubliés. Il y a aussi des chutes de prix, parce qu'un artiste est à la mode pour telle ou telle raison et ne l'est plus. J'ai pas comme ça d'exemple, mais il y en a beaucoup.
Donc, on en a tous plus
on a ou tous. En tête. Par contre, il peut y avoir des chutes de prix, mais le très bon art revient. Moi, je me souviens très bien dans les années 90 où Harold ne coûtait pratiquement plus rien. Oui, bien sûr. Enfin, ça coûtait vraiment, vraiment pas cher. Mais simplement, de temps en temps, on dit, mais attendez, il faut savoir acheter à la baisse. Et c'est vrai qu'il y a un effet d'entraînement où les collectionneurs ne savent pas le faire et préfèrent n'acheter que lorsque l'artiste est très cher. Donc, c'est le très bon artiste, il se retrouve toujours dans l'histoire de l'art quand même, après, sur le long terme.
Sur le même thème que cette émission, un colloque était organisé, la question de l'art sans marché, par le Conseil des ventes et l'Académie des Beaux-Arts. C'était au printemps dernier. Et intervenait dans ce colloque l'artiste plasticien Alain Bublex sur les liens entre art et marché.
On peut très bien imaginer, dans une société humaine, un membre de cette société qui produit une chose, un événement, ou un son, ou un espace physique, qui ouvre un espace symbolique, qui, pour son entourage, va permettre de comprendre un sentiment ou une situation. En revanche, ce qui ne peut pas exister, c'est le marché de l'art sans œuvre. C'est-à-dire que c'est peut-être un peu l'inverse, d'une certaine manière. Ce n'est pas que l'art n'existerait qu'avec le marché, c'est que le marché de l'art, lui, ne pourrait pas exister sans les œuvres. Si le marché préoccupe l'artiste, bien sûr, parce que le quotidien de la vie dépend en partie de cela, en tout cas dans la pratique de l'art, c'est-à-dire dans la production d'œuvres d'art, en réalité, les questions ne sont pas celles du marché. Celles du marché interviennent parmi d'autres questions qui ne sont pas beaucoup plus importantes que la résistance d'un matériau à vouloir se plier à la forme qu'on est en train d'essayer de mettre à jour.
Un artiste qui ne se pose pas les questions du marché, pas en première intention, comme on dit au football, mais plutôt en deuxième ou en troisième intention, Nathalie Obadia et Nathalie Moreau.
En tout cas, un Lublex dont j'apprécie d'ailleurs beaucoup l'œuvre et dans le système complètement. Il a une galerie influente qui s'occupe très bien de lui. Donc, il produit des œuvres, il sait être présent dans les endroits stratégiques que sont justement la FIAC.
Ah non, il dit pas qu'il est en dehors du marché lui-même. Non, il dit juste qu'il n'y aurait pas de marché sans œuvre. Ça, ce qui est
oui,
tout à fait,
sûr,
c'est une évidence absolue.
Mais ça n'existerait pas.
C'est même pas sûr parce que il peut y avoir des œuvres qui sont très, enfin des œuvres qui peuvent être considérées comme très commerciales et qui ne sont pas de l'art et qui constituent aussi le marché de l'art aujourd'hui. Des artistes, oui, je vois que vous me regardez bizarrement, mais des artistes qui font des uniques, monumentaux et qui après inondent le marché de multiples et qui bénéficient de l'aura des quelques uniques qu'ils ont fait pour inonder le marché de multiples et des collectionneurs ont l'impression qu'ils achètent un artiste important, ils achètent un nom.
Donc,
est-ce que c'est une vraie œuvre ou pas? Ça pose la question. Mais c'est vrai qu'à la base, le marché de l'art n'existerait pas sans artistes. Sur des artistes qui peuvent développer une œuvre en dehors du marché, il y en a quelques-uns et ça existe, mais ce n'est pas la majorité. Et nous prenions avant l'émission l'exemple de Raoul Marek qui, au château d'Oiron, donc a constitué.
Ceux qui ne connaissent pas le château d'Oiron et qui ne connaissent pas cette œuvre ont intérêt à y aller dès ce week-end parce que c'est une œuvre absolument formidable.
Donc c'est un château qui propose de nombreuses œuvres d'art contemporain et Raoul Marek a conçu une œuvre avec les habitants de la localité où 150 habitants ont été pris en photo de profil, ont mis leur empreinte et ont donné leurs initiales. Et donc, il y a toute une collection d'assiettes et de porcelaine de sel qui a été fait avec le profil des habitants il y a 36 ans, les verres avec leurs empreintes, les assiettes avec leurs empreintes. Et chaque année, l'œuvre est réactivée et ils viennent dîner. Et l'œuvre fait partie prenante du château, même si c'est un bien qui peut être échangé. En tous les cas, ici, ça fait objet de patrimoine.
Et c'est un artiste qui a vécu d'une commande publique à ce moment-là, en tous les cas.
Et donc là, on peut dire que effectivement, c'est une œuvre qui pourrait être marchande, mais qui ne l'est pas. Il y a un choix d'échapper au marché. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est qu'aujourd'hui, on accuse le marché, on pose plein de questions sur ce marché. On se dit, est-ce qu'il peut y avoir de l'art sans marché, etc. Alors que dans les années 80, c'était le contraire. On parlait d'art officiel en France. On se disait, ce sont les pouvoirs publics, ce sont les commissaires qui décide de l'art et la problématique c'est qu'il n'y a pas de collectionneurs, il n'y a pas de marché.
J'ai fait des émissions sur ce sujet.
Et en fait, c'est assez drôle de voir que aujourd'hui, du fait de l'explosion du haut du marché d'un tout petit nombre d'œuvres qui font des enchères millionnaires, il y a une vision où tout l'art c'est que le marché et c'est indécent. Or, le marché de l'art c'est pas que ça. Il y a des échanges à des tarifs beaucoup plus normaux. Give me my check. Put some respect on my check. Pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. He got a bad chick. We live in lavish, lavish. I got expensive fabrics. I got expensive habits. He wanna go with me. He likes to roll with me. He wanna be with me. He wanna give me that vitamin D. Ice ornaments. Ice style ornaments. You ain't on of this. Don't think they on of this. But I'm a jet. Shut down Khalid.
Culture, le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un extrait de Ape Shit de Beyoncé et de Jay-Z, dont le clip a été tourné dans le Louvre en juin 2018, parce que là aussi, porosité. Les murs du Louvre sont ouverts aussi à tout un tas d'investisseurs qui veulent s'y intéresser dans ces endroits qui étaient auparavant extrêmement fermés. Zoé Allaire, que disent les artistes que vous avez rencontrés pour votre travail de sociologie à l'Université de Rouen sur les œuvres en marge du marché de l'art, de leur vie, de leur façon de voir le marché, de le regarder? Y a-t-il du désir d'y entrer? Y a-t-il une auto-satisfaction de ne pas y être? Que disent-ils justement ces artistes qui sont nombreux que vous avez pu rencontrer dans ce travail d'enquête?
Ben souvent, c'est une position assez ambivalente à l'égard du marché de l'art parce que souvent, dans leur jeunesse, certains d'entre eux ont fait des tentatives pour y s'y intégrer. Et ça s'est souvent terminé par des échecs. Donc, il fallait pouvoir continuer malgré cet échec, malgré un manque de reconnaissance de la qualité de son travail. Parce que, comme vous l'avez expliqué, être intégré dans le marché de l'art, être reconnu par une galerie, être représenté, eh ben, c'est aussi une reconnaissance de la qualité de son travail. Donc, il s'agit pour ces artistes-là de parvenir à continuer à créer en dehors de cet indice de reconnaissance.
Sans tomber dans une amertume qui les empêcherait justement de continuer leur propre travail d'artiste, c'est ça ?
Voilà, exactement. Il s'agit de pouvoir composer avec cet échec relatif, enfin échec au regard de, d'une certaine manière de concevoir l'art, hein, de concevoir les carrières artistiques aussi.
D'autant que si on a fait une école des beaux-arts, ses propres camarades dans la même promotion ont pu avoir des destins très divers, abandonner l'art par exemple, faire tout autre chose, rentrer dans des entreprises ou au contraire rentrer parfaitement dans le marché de l'art. Donc il doit y avoir effectivement un regard un peu différencié, pourrait-on dire, sur son propre sort au milieu de tout cela.
Oui, certains d'entre eux, beaucoup d'artistes que j'ai rencontrés se sont quand même sortis des carrières artistiques à un moment, ont fait des longues expériences professionnelles en entreprise et après sont retournés vers l'art. Et ils ont choisi de sacrifier cette existence assez stable, avec des revenus assez stables, pour revenir à une existence organisée autour de l'art et une existence assez précaire. Et ils justifiaient ce choix en expliquant, en défendant une idée de l'art pour l'art, en défendant une sorte d'idéal artistique déconnecté du marché de l'art, qui parfois était diabolisé, où ils avaient pu avoir quelques contacts avec des galeristes qui leur demandaient d'adapter leur pratique à des fins commerciales, et c'était inenvisageable pour eux après le sacrifice qu'ils avaient fait d'une certaine stabilité financière. Et pour une autre partie d'entre eux, il s'agissait aussi de réussir à concilier ces différentes identités professionnelles. Donc on en a déjà parlé, il s'agit de trouver des sources de revenus en dehors du milieu de l'art et d'articuler ces identités artistiques et professionnelles qui se construisent parfois en dehors du champ de l'art.
Oui, parce que tout de même, que mettons sur un papier d'état civil alors qu'on vous demande votre métier, est-ce qu'on met artiste, est-ce qu'on ose le dire, est-ce qu'on n'ose pas le dire, est-ce qu'on préfère mettre professeur dans une école ou d'autres types de qualifications qui sont peut-être plus acceptées par d'autres, ou parce que on se regarde différemment, Nathalie Obadia?
Ben écoutez, moi, la galerie, forcément, j'ai des artistes qui...
Ils sont à la maison des artistes.
Ils sont à la maison des artistes et on dit artiste plasticien, on va dire aujourd'hui. Donc non, je dirais être artiste aujourd'hui fait partie des métiers, enfin ça ne fait pas du tout marginal, voilà, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer.
Nathalie Moreau.
En fait, le problème de la définition de l'artiste, c'est que souvent c'est de l'auto-définition. Et dans les critères de définition de l'artiste par rapport à la maison des artistes ou même en économie, quand on cherche à identifier ces catégories, il y a plusieurs critères, et notamment la part des revenus qui peut être issue de son activité d'artiste et le temps passé. Donc on voit bien que le marché fait partie aussi des critères qui permettent de définir ce que c'est qu'un artiste ou pas. Si moi je décide de me définir artiste demain, je peux le faire parce que je suis peint du dimanche, mais c'est pas pour autant que je serai artiste. Oui. Donc le marché participe aussi de cette définition.
Oui, tout à fait.
Pierre Pradier, est-ce que en tant que collectionneur, vous avez vous-même soutenu des jeunes artistes, les aider? Est-ce que vous vous êtes donné une sorte de mission de faire en sorte que quelqu'un qui se veut artiste et dont vous aimez le travail le demeure le plus longtemps possible?
Alors je crois qu'effectivement, lorsqu'un engagement est pris vis-à-vis d'un artiste, ou vis-à-vis d'une galerie aussi.
Parce que vous voyez ça comme un engagement, vous, de votre côté.
Et oui, lorsque le premier achat d'un artiste intervient, j'ai en moi le désir de voir comment cette œuvre va évoluer. Donc ce n'est pas un engagement par rapport à un tiers qui est l'artiste, mais c'est un engagement par rapport à moi-même. J'ai investi une certaine somme d'argent, je veux savoir comment va évoluer cet artiste, comment son galeriste va le présenter, comment les institutions vont le présenter. Et j'ai des expériences avec certains artistes qui ont duré, qui durent encore, qui ont duré 15 ans, 20 ans. Ce qui me semble extrêmement important, c'est justement de poursuivre cette action. et de ne pas laisser un artiste, lorsqu'il a un creux...
Au bord du chemin.
Au bord du chemin, ou alors tout simplement, et c'est ça que je trouve le plus intéressant, c'est qu'un artiste, à un certain moment, peut se mettre à produire différemment, à exercer son art de façon différente.
Mais comment on divorce d'un artiste? Comment on lui dit en tant que collectionneur, bon, voilà, j'ai beaucoup aimé ce que tu as fait auparavant, et maintenant j'aime moins, et voilà, je vais peut-être plus acheter les prochaines toiles que tu es en train de préparer.
Alors, est-ce que c'est un divorce?
Si vous dites un engagement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un divorce en tous les cas.
C'est une séparation qui est ponctuelle. En fait, c'est une relation qui est intermittente.
Oui, Nathalie Moreau.
Il peut y avoir des conditions tout à fait économiques, tout simplement. Quand l'artiste est devenu reconnu, le collectionneur peut ne plus avoir les moyens de suivre la carrière de l'artiste.
C'est quelque chose d'assez fréquent. Aussi,
Et notamment ce que vous disiez sur les collectionneurs qui suivent les artistes, c'est quelque chose qui était très très important il y a quelques années, qu'on voit peut-être moins aujourd'hui, qui existe toujours, mais du fait du taux de renouvellement très important des artistes, de la scène émergente, j'ai rencontré plusieurs collectionneurs qui disaient que c'était plus compliqué d'être fidèle sur le long terme avec des artistes, allié au fait que les prix explosent.
Mmh. Pierre Pradier.
Bah oui, j'ai eu la chance de rencontrer Peter Saul, un artiste américain, il y a une quinzaine d'années. J'ai acheté une œuvre qui était tout à fait accessible. J'ai continué à le faire. Et puis aujourd'hui, la dernière fois que j'ai acheté un Peter Saul, je me suis fait mal, comme on dit. Mmh. Très mal même. Mais je suis heureux de l'avoir fait. Mais c'est vrai que j'aurais pu disposer d'œuvres d'artistes acquises précédemment et qui m'intéressent un petit peu moins aujourd'hui et disposer de ces œuvres pour les revendre, eh bien j'aurais pu financer mon achat. Alors aujourd'hui, c'est ce qui manque un peu au marché de l'art français, c'est que la monétisation des artistes français n'est pas toujours très évidente.
C'est-à-dire qu'ils ont moins de cotes que les artistes, je sais pas, que Peter Saul, qui est un artiste américain, par exemple.
Ah ben Peter, quand aujourd'hui un collectionneur achète un Peter Saul, c'est une œuvre qu'il est facile de revendre. Aujourd'hui, acheter un artiste français, même reconnu, on peut s'attendre à une décote
si on ne le fait pas
en relation avec...
Vous disiez que vous ne parliez pas d'argent avec les œuvres d'art. Je vois que c'est vous qui amenez la discussion sur, sur le tapis, d'une certaine manière. Alors, d'abord, puisqu'on parle de Peter Saul, qui est un artiste américain qui a été longtemps sous-coté, très sous-coté.
Oui.
Aux États-Unis, pour assez bien connaître la situation, il y a un nombre, justement, de chutes ou de renouveau de prix. Il faut quand même suivre. Ce n'est pas toujours l'Eldorado pour les artistes américains, contrairement à ce qu'on croit.
C'est un marché de yo-yo.
La France, dans la mesure où nous ne sommes pas dans des prix absolument stratosphériques sur la scène contemporaine, il y a eu beaucoup moins de déceptions. Et je dirais que depuis une dizaine d'années, les choses sont en train d'extrêmement bien évoluer et qu'il y a une nouvelle génération d'artistes de la scène française qui ont des prix de plus en plus raisonnables, enfin de plus en plus importants, pardon, qui se retrouvent...
De moins en moins raisonnables.
Oui, enfin, plus en plus importants, oui, pardon, mais qui se retrouvent aussi sur un second marché, c'est-à-dire qu'on peut les négocier soit en vente privée, soit en vente aux enchères. Et je suis là, la FIAC, on en parlait tout à l'heure avec Nathalie, je suis même très étonnée. Il y a 5 ou 6 ans, un collectionneur étranger a voulu parler d'un artiste français, encore plus un peintre français, il partait en courant, alors que là, depuis 3-4 jours, on vient sur mon stand me demander mais quel est cet artiste et peintre français qui s'appelle Benoît Maire, qu'il faut acquérir. La situation est de moins en moins pire.
Je voulais revenir tout à l'heure à ce que vous disiez tout à l'heure, Nathalie Obadia. Vous disiez, en fait, je place mes artistes, j'essaye en tant que galeriste, de mettre leurs œuvres dans un musée pour qu'ensuite ils prennent une cote, etc., etc. C'est bien le signe aussi d'une porosité, c'est-à-dire qu'il y a un vrai travail de la galeriste ou du galeriste pour pousser un artiste que de faire rentrer dans un musée. Et donc, on peut prêter une œuvre pendant un certain temps à un musée, ça participera de la cote, puisque ensuite, on pourra dire qu'elle a été exposée dans ce musée, etc. Et faire ensuite monter la cote et la revendre sur le marché.
Ça ne se passe pas vraiment comme ça, mais disons qu'aujourd'hui, je pense à un exemple qui s'appelle Valérie Belin, qui est certainement un des photographes les plus importants de la scène, même internationale, puisqu'elle est représentée par vraiment de nombreux musées à l'étranger. Et c'est typiquement une artiste très intéressante parce que justement, elle est à la fois très présente sur le marché privé, mais aussi sur le marché, enfin, dans la reconnaissance institutionnelle, pardon.
Oui, ça veut dire que ça peut marcher de pair et ça peut parfois ne pas marcher de
pair.
Oui,
mais c'est important quand ça marche de pair. Un artiste qui n'est qu'un artiste institutionnel, ou ce qu'on appelait de frac, comme on disait avant.
Et alors ça, c'était vraiment l'insulte des années 90.
Non, c'était pas une insulte. C'était, moi, je me souviens que j'avais des artistes qui m'en guirlandaient pour parler poliment en me disant, mais tu ne vends pas assez au frac. Ils pensaient que pour eux,
c'était les fonds régionaux d'art contemporain qui faisaient la reconnaissance
d'un artiste. Voilà. Bon, et aujourd'hui, peut-être que c'est parfois péjoratif, mais je n'irai pas jusque-là.
Vous l'avez utilisé à
peu près dans le sens. Non, mais c'est vrai que s'il n'y a que la reconnaissance des institutions, ça c'est un vrai problème. Il faut qu'il y ait de pair la reconnaissance aussi du marché privé.
Nathalie Moreau, sur ce point justement, sur ces deux marchés, parce que je découvre qu'il y aurait deux marchés, un marché de reconnaissance publique et un marché de reconnaissance...
Qu'on a voulu séparer, mais qu'il n'y en a qu'un.
Toute la problématique du marché de l'art et de la valeur et du fait que la spéculation démarre si facilement, c'est que justement, cette reconnaissance artistique se fait à la conjonction du marché institutionnel et du monde marchand. Vous posiez la question des prêts ou des dépôts dans les musées.
On connaît beaucoup de collectionneurs qui déposent une œuvre qu'ils ont achetée assez chère, d'ailleurs, dans un musée. Ça lui donne encore plus de valeur, il la retire un an plus tard.
Justement, je pense qu'il y a un vrai souci, effectivement, aujourd'hui, de porosité, d'influence qui n'existait pas de façon si importante par le passé. Mais sur le point précis des dépôts, on ne fait pas un dépôt dans un musée comme on veut. Justement, les musées sont assez attentifs à, quand il y a un dépôt, que le dépôt se fasse pour une durée minimale de 3 ou 5 ans, et qui est un engagement du collectionneur à faire un don ultérieurement, justement pour éviter ce que vous mentionniez. Ce qui n'empêche qu'un collectionneur fortuné peut très bien avoir 5 pièces d'un artiste, en déposer une dans un musée, ça contribue également à faire monter la cote de l'artiste, et c'est très bien pour lui. Mais il faut... En même temps, ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a une incertitude très forte pour cette qualité. Et quand on regarde,
on a bien compris que c'était le cœur de la question.
Oui, mais quand on regarde sur les collections qui ont été revendues et dont on a des calculs pour avoir le taux de rentabilité, on se rend compte que finalement, il y a une telle incertitude, un risque si élevé que lorsque le collectionneur revend sa collection, il y a une partie certes qui peut avoir pris de la valeur, mais il y a une partie sur laquelle il s'est complètement trompé. Dans l'ensemble, les taux de rentabilité ne sont pas énormes. Alors, il peut y avoir des exceptions comme Yvon Lambert, mais bon, il est galeriste aussi, mais les personnes qui ont un regard pour constituer une vraie collection et que ce soit très, très rentable, c'est très peu. Par contre, il peut y avoir de la spéculation sur des œuvres à court terme, ça, évidemment.
Bien sûr.
Et c'est le problème du marché.
Oui, puis il peut y avoir l'arrivée d'une concurrence telle entre très grands collectionneurs, comme on le connaît en France, entre Pinault et Arnault, qu'au bout du compte, effectivement, parfois, le marché s'emballe sur certaines œuvres ou sur certains artistes, ça peut arriver aussi, mais c'est une conjoncture tout à fait.
Cela a toujours existé.
Oui, mais pas à ce niveau-là, peut-être si. Nathalie Obadia, tout de même.
J'ai lu un livre très, très, très intéressant cet été. Il a un double nom, il s'appelle Smith. Il a fait une étude sur le marché américain du début du 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Et quand vous regardez les méthodes que pouvaient avoir les premiers peintres comme Church, enfin les premiers peintres américains, la manière dont ils valorisaient leur œuvre et faisaient la spéculation et le mimétisme, jouer du mimétisme entre les collectionneurs, je peux vous dire que Kunz n'a rien inventé. Il faisait exactement la même chose, de savoir jouer.
Pourtant, vous l'avez beaucoup critiqué, Kunz, particulier pour ces tulipes.
Pour les tulipes, mais le marge, oui, mais ça, c'est autre chose. Mais si vous voulez, c'est vrai qu'on s'aperçoit que c'était pas du tout
C'est inhérent au marché d'une certaine façon.
Inhérent au marché de faire en sorte que la poignée de collectionneurs influents fasse monter la cote d'un artiste.
Merci beaucoup à vous. On va vous laisser repartir du côté de la FIAC où vous continuez vendre, je l'espère pour vous en tous les cas, des œuvres et à discuter avec vos collègues. Nathalie Obadia, merci également à Nathalie Moreau qui nous a accompagnés. Je rappelle que vous êtes professeure d'économie, vice-présidente déléguée à la culture à l'université Paul Valéry à Montpellier, à Zoé LR qui termine sa thèse de sociologie sur ces questions justement des marginaux du marché de l'art, et à vous Pierre Pradier d'être venu pour nous parler de votre travail de collectionneur, de votre passion de collectionneur. Merci à tous les quatre.
Fair warning now for £8,500,000. Emma, congratulations. So, L044. Thank you very much indeed. For £8,500,000. Thank you very, very much indeed, ladies and gentlemen.
Eh oui. C'était bien plus que ce qu'on pouvait espérer au début, en tout cas, ce qu'espéraient en tous les cas les acheteurs qui se sont beaucoup bousculés pour acheter ce Banksy, donc le 3 octobre dernier. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Hugo Boursier, Fanny Richer, Rémi Baille et Louise André à la technique, Florent Bujon à la vidéo, Cindy Legrumelec et à la réalisation, Émilie Vallat et Alexandre Manzanares.